Chapitre 2. Suggestion. Entre l'opérateur et le sujet, les demandes et les réponses ne sont qu'un voile verbal, tout à fait insignifiant, sous lequel, droit, fixe, indistrait, le vouloir de ce que l'on suggère doit rester tendu comme un glaive entre les prunelles du suggérant. Physiologie moderne. Cependant, Miss Alicia Clary souriait toujours, et les diamants de ses doigts brillaient chaque fois qu'elle portait à ses lèvres sa fourchette d'or. Edison regardait cette femme en la pénétrant du coup d'œil aigu de l'entomologiste qui aperçoit enfin, par un beau soir clair, le fabuleux phalène destiné, demain, à sommer les cadres d'un musée avec une épingle d'argent dans le dos. « À propos, Miss Alicia Clary, dit-il, eh bien, que dites-vous de notre cher théâtre ici? De nos décors, de nos chanteresses? Elles sont bien, n'est-ce pas? Une ou deux assez ragoûtantes, oui, si l'on veut, mais fagotées. À souhait, c'est juste, dit Edison en riant. Les costumes d'autrefois étaient si bêtes. Et comment avez-vous trouvé le Freitschuss? Le ténor? Répondit la jeune femme, la voix un peu blanche, distinguée, mais froid. Se méfier de ceux qu'une femme trouve froid, dit, tout bas, Edison à Lorévald. Vous dites? Demanda Miss Alicia. Je dis, ah, la distinction, c'est tout dans la vie. Oh oui, la distinction, dit la jeune femme, en élevant vers les poutres du laboratoire ses yeux profonds comme un ciel d'Orient. « Je sens qu'il me serait impossible d'aimer quelqu'un qui ne serait pas distingué. » Tous les grands hommes, Attila, Charlemagne, Napoléon, le Dante, Moïse, Homère, Mahomet, Cromwell, etc., étaient doués, au dire de l'histoire, d'une distinction exquise, des manières, de ces mille délicatesses charmantes, qu'ils poussaient même jusqu'à la mièvrerie. De là, leur succès. Mais je parlais de la pièce. « Ah, de la pièce !» reprit Miss Alicia Clary, non sans une moue aussi dédaigneusement délicieuse que celle de Vénus regardant Junon et Diane. « Entre nous, elle m'a paru un peu... »« Oui, n'est-ce pas ?» reprit Edison en haussant les sourcils avec un œil atone. « Un peu... »« C'est cela, » dit la comédienne en respirant à deux mains ses rosetés. « Enfin, là, ce n'est plus de l'époque, » résuma Edison avec un ton sec et péremptoire. « D'abord, » ajouta Miss Alicia, « je n'aime pas que l'on tire des coups de fusil sur la scène. Cela vous fait sauter. Et, justement, cela commence par trois coups de fusil. Faire du bruit, ce n'est pas faire de l'art. » « Et puis, les accidents sont si vite arrivés, » appuya Edison. « La pièce y gagnerait si l'on coupait ses détonations. » « D'ailleurs, cet opéra-là, » murmura Miss Alicia Clary, « c'est du fantastique, tout cela. » « Et le fantastique a fait son temps, c'est juste. Nous vivons dans une époque où le positif seul a droit à l'attention. Le fantastique n'existe pas, » conclut Edison. « Quant à la musique, vous a-t-elle paru un peu... Et il allongea les lèvres d'une manière interrogative. « Ah, je suis partie avant la valse, » répondit simplement la jeune femme, comme déclinant par là toute possibilité d'appréciation. Et sa voix articula cette phrase avec une inflexion de contralto si riche et si pure, si céleste même, qu'aux oreilles d'un étranger qui n'eût point parlé la langue en laquelle s'exprimaient les convives, Miss Alicia Clary eût semblé quelque fantôme sublime d'une Hypatie au visage athénien, errante la nuit, à travers la terre sainte et déchiffrant, aux lueurs des étoiles, sur les ruines de Sion, tel le passage oublié du Cantique des Cantiques. Lorévald, en homme qui n'accorde même plus d'attention aux propos environnants, semblait uniquement préoccupé des paillettes irisées qui s'allumaient dans l'écume vermeille de sa coupe. « C'est différent, » répondit sans s'émouvoir Edison. Je conçois qu'en effet, vous ne puissiez asseoir votre jugement sur des bribes, comme les scènes de la forêt et de la fonte des balles, par exemple, ou même sur le morceau du calme de la nuit. « Celui-là fait partie de mon répertoire, » soupira Miss Alicia Clary, « mais la chanteuse de New York se fatigue pour rien. Je pourrais la chanter 10 fois de suite, moi, sans qu'il y parût, comme je vous ai chanté la Costa Diva une certaine soirée, ajouta la belle virtuose en se tournant vers Lorévalda. Je ne comprends pas que l'on écoute sérieusement des cantatrices qui s'emballent, comme on dit. Il me semble que je me trouve au milieu d'une assemblée de fous quand je vois applaudir de tels écarts. Ah, comme je vous comprends, moi, Miss Alicia Clary, s'écria l'électricien. Il s'arrêta soudainement. Il venait de surprendre un coup d'œil que Lorévalda, en un moment de distraction sombre, venait de jeter sur les bagues de la jeune femme. Certes, il songeait à Adalie. Maintenant, reprit Edison en relevant la tête, nous omettons, ce semble, une question assez grave. Laquelle ? Demanda Miss Alicia Clary. Et elle se tourna, souriante, vers Lorévalda, comme étonnée du silence qu'il gardait. Celle des émoluments et feux auxquels vous devez prétendre. Oh ! Répondit celle-ci, en quittant subitement d'attention le jeune lord. Je ne suis pas une femme d'argent, moi. Comme tous les cœurs d'or, répondit galamment Edison, et en s'inclinant. Il en faut, cependant, modula l'incomparable créature, avec un soupir qu'un poète n'eût pas désavoué chez Desdemona. Quel dommage, dit Edison. Oh, bah, si peu, lorsqu'on est artiste, reprit-il. Le compliment, cette fois, parut toucher fort peu Miss Alicia Clary. « Mais, dit-elle, une grande artiste se mesure à l'argent qu'elle gagne. Je suis plus riche que ne le désireraient mes goûts naturels, mais je voudrais aussi devoir ma fortune à mon métier, à mon art, veux-je dire. » « C'est d'une délicatesse de sentiment bien louable, » répondit Edison. « Oui, continua-t-elle, et si je pouvais gagner, par exemple... » Elle hésitait et regardait l'ingénieur. « 12 000... » Edison fronça imperceptiblement les sourcils. « Ou 6 ?» reprit Miss Alicia Clary. Le visage d'Edison s'éclaircit un peu. « Enfin, de 5 à 20 000 $ par an ?» acheva Miss Alicia Clary enhardie. Et, avec le sourire de la divine de l'immense Anadiomède illuminant de son apparition l'aurore et les flots, « j'avoue que j'en serais très contente, à cause de la gloire, vous savez ?» Le visage d'Edison s'éclaira tout à fait. « Que de modestie » s'écria-t-il. « J'imaginais que vous alliez dire Guinée. » Une ombre, une contrariété, passa sur le front sublime de la jeune femme. « Vous savez, les débuts, dit-elle, on ne doit pas être exigeante. » Le visage d'Edison se rembrunit. « D'ailleurs, ma devise est « tout pour l'art », s'empressa de conclure Miss Alicia Clary. Edison lui tendit la main. « Je reconnais bien là le désintéressement d'une âme élevée, dit-il, mais je m'arrête. Point de flatterie prématurée. Quelle pire massue que l'encensoir gauchement manœuvré. Attendons. Un doigt de ce vin des Canaries, ajouta-t-il. Tout à coup, la jeune femme, comme se réveillant, regarda autour d'elle. « Mais où suis-je donc ? » murmura-t-elle. Chez le plus original, mais le plus grand sculpteur de l'Union, répondit gravement Edison. Ce sculpteur est une femme. Ce seul mot doit vous révéler son illustre nom, Mistress Annie Sowana. Je lui ai loué cette partie du château. Tiens, j'ai vu, en Italie, quelque instrument de statuaire. Il ne ressemblait en rien à ceci. Ah, que voulez-vous, dit Edison, la méthode nouvelle. Aujourd'hui, l'on est expéditif en toutes choses. On simplifie. La grande artiste dont voici l'atelier, l'illustre Annie Sowana, n'en avez-vous pas entendu parler ? Oui, je crois, dit à tout hasard Miss Alicia Clary. J'en étais sûre, dit Edison, sa renommée a traversé les océans. Cette souveraine ciseleuse du marbre et de l'albâtre, disons-nous, est donc littéralement prodigieuse de rapidité. Elle procède par des moyens tout nouveaux, une découverte récente. En 3 semaines, elle reproduit magnifiquement et avec une fidélité de rendu scrupuleuse les animaux et les humains. Et, à ce propos, vous savez, n'est-ce pas, Miss Alicia Clary, qu'aujourd'hui le monde, le haut monde s'entend, remplace le portrait par la statue. Le marbre est à la mode. Les plus puissantes dames seulement ou les plus distingués parmi les plus célèbres du monde des arts, ont compris, grâce à leur tact féminin, que la dignité et la beauté des lignes de leur corps ne pouvaient jamais être « choking ». En sorte que Mistress Annie Sowana ne se trouve absente ce soir que pour achever la statue en pied de la charmante reine d'Otaïti, justement de passage à New York. « Ah !» dit Miss Alicia Clary, très étonnée. « Le grand monde a décidé, vraiment, que c'était convenable ?»« Et aussi le monde des arts, » dit Edison. « N'avez-vous donc point vu les statues de Rachel, de Jenny Lind, de Lola Montes ?» Miss Alicia Clary parut chercher dans ses souvenirs. « Je crois les avoir vues, en effet, » dit-elle. « Et celle de la princesse Borgèse ?»« Ah oui, je me rappelle celle-là. » « Je l'ai vue en Espagne, je crois. Oui, à Florence, » interrompit, toute rêveuse, Miss Alicia Clary. Une princesse donnant l'exemple, dit négligemment Edison. « Vous comprenez que la chose est devenue maintenant tout à fait reçue. Les reines même n'y résistent plus. Lorsqu'une artiste est douée d'une grande beauté, elle se doit sa statue, avant même qu'on la lui élève. » Vous avez sans doute exposé la vôtre, Miss Alicia Clary, dans les salons annuels de Londres. Comment se fait-il que ce souvenir, capable cependant de frapper l'intelligence d'une admiration si naturelle, me soit échappé de l'esprit? Je rougis de le dire, mais je ne me rappelle pas votre statut. Miss Alicia Clary baissa les yeux. « Non, dit-elle, je n'ai que mon buste en marbre blanc et mes photographies. J'ignorais que... « Oh, mais c'est un crime de lèse-humanité !» s'écria Edison. « Et de plus, au point de vue de cette réclame, si indispensable aux véritables artistes, c'est un oubli grave. Je ne m'étonne plus que vous ne soyez point déjà de celle dont le nom seul est une fortune pour un théâtre et dont le talent est hors de prix. » En proférant ces mots absurdes, l'électricien, de ses yeux clairs et calmes, envoyait, comme une lueur vive, au fond des prunelles de son interlocutrice. « Il me semble que vous eussiez dû m'avertir de cela, milord, » dit Alicia, se tournant vers le jeune homme. « Ne vous ai-je point mené au Louvre, Miss Alicia Clary ?» répondit le Révald. « Ah oui, devant cette statue qui me ressemble et qui n'a plus de bras. Mais si l'on ne sait pas que c'est moi, la belle avance. » « Un conseil, saisissez l'occasion, » s'écria Edison, sans que son regard vibrant cessât de se river aux deux prunelles de l'éblouissante virtuose. « Mais, si c'était la mode, je le veux bien, » dit Alicia. C'est dit, et comme le temps est de l'or, tout en répétant quelques scènes de ces productions dramatiques d'un ordre nouveau dont nous étudierons ensemble les arcanes, pardon, ce blanc de pluvier, s'il trouve grâce, Mistress Annie Sowana va se mettre à l'œuvre, aidée de mes conseils et au plus tôt. De sorte qu'en 3 semaines, voyez si elle exécute vite. Dès demain, si c'est possible, interrompit la jeune femme. Et comment poserai-je? Ajouta-t-elle en baignant ses merveilleuses lèvres de rose rouge dans sa coupe. Nous sommes femmes d'esprit, dit Edison. Oh, sans fadeur, osons donc atterrer d'avance nos rivales prochaines. Il faut frapper la foule par un de ces coups audacieux qui retentissent dans les deux mondes. « Je ne demande pas mieux, » répondit Miss Alicia Clary. « Je dois tout faire pour arriver. » Au point de vue réclame, votre marbre en pied est indispensable dans les foyers de Covent Garden ou de Drury Lane. Indispensable. Voyez-vous, une magnifiquement belle statue de cantatrice, cela prédispose les dilettanti, désoriente la multitude et enlève les directeurs. Posez donc en Ève. C'est la pose la plus distinguée. Nul autre artiste, je le gagerai, n'osera jouer ni chanter après vous. L'Ève future. En Ève, dites-vous, chez Monsieur Thomas? Est-ce que c'est un rôle du nouveau répertoire? Naturellement, dit Edison. Certes, ajouta-t-il en souriant, ce sera sommaire, mais auguste, ce qui est l'essentiel. Et lorsque l'on est d'une beauté aussi surprenante que la vôtre, c'est la seule pose qui convienne à tous égards. Oui, je suis très belle. C'est positif, murmura Miss Alicia Clary avec une mélancolie étrange. Puis, relevant la tête. « Qu'en pense Miller Evald ?» demanda-t-elle. « Mon ami, maître Thomas, vous donne un excellent conseil, » dit Miller Evald, d'un air de nonchalance insoucieuse. « Oui, » répondit Tennyson. « D'ailleurs, le grand art justifie la statue et la beauté des armes les plus sévères. Les trois grâces ne sont-elles pas au Vatican ? Priné ne confondit-elle pas l'aréopage ? Si donc vos succès l'exigent, Miller Evald ne saurait être assez cruel pour élever une objection. « Voilà qui est convenu, » dit Alicia. « Eh bien, dès demain, soit, je préviendrai, vers midi, à son retour, notre immortelle Soana, » conclut l'électricien. « Quelle sera l'heure à laquelle elle devra vous attendre, miss ?»« Mais 2 heures, si cela... »« 2 heures ? Très bien. Maintenant, le secret le plus profond, » ajouta Edison, un doigt sur les lèvres. « Si l'on savait que je me consacre à vos débuts, je serais dans la situation d'Orphée parmi les Bacchantes. On me ferait un mauvais parti. « Oh, soyez tranquille !» s'écria Miss Alicia Clary. Puis, se tournant vers Miller Evald, « Il est très sérieux, maître Thomas, » lui dit-elle tout bas. « Très sérieux, » dit Miller Evald. « C'est pourquoi mon télégramme a été si pressant. » On était au dessert. Il jeta un coup d'œil sur Edison. Celui-ci crayonnait quelques chiffres sur la nappe. « Vous écrivez ?» dit en souriant Miller Evald. « Rien !» murmura l'ingénieur. « Une découverte dont je prends note, à la hâte, pour ne pas l'oublier. » En ce moment, le regard de la jeune femme tomba sur l'étincelante fleur donnée par Adalie et que Miller Evald, par distraction, peut-être, avait encore à la boutonnière. « Qu'est-ce que cela ? » dit-elle en reposant son verre de liqueur des îles et en allongeant la main. Edison, à cette question s'étant levé, alla ouvrir la grande fenêtre du parc. Le clair de lune était admirable. Il s'accouda sur la balustrade, en fumant, le dos tourné aux astres. Miller Evald, à la question et au geste de la belle vivante, avait tressailli. Un involontaire mouvement pour sauvegarder la fleur étrange lui était échappé. « N'est-ce donc pas pour moi, cette belle fausse fleur ?» murmura Miss Alicia Clary souriante. « Non, miss, vous êtes trop vrai pour elle, » répondit simplement le jeune homme. Soudain, il ferma les yeux malgré lui. Là-bas, sur les degrés de son seuil magique, Adalie venait d'apparaître. Elle soulevait de son bras resplendissant la draperie de velours grenat. Immobile en son armure et sous son voile noir, elle se tenait comme une vision. Miss Alicia Clary, lui tournant le dos, ne pouvait voir l'Andréide. Adalie avait sans doute assisté aux dernières circonstances de la conversation. Elle envoya, de la main, un baiser à Miller Evald, qui se leva brusquement. « Qu'est-ce donc ? Qu'avez-vous ? » dit la jeune femme. « Vous me faites peur. » Il ne répondit pas. Elle se retourna. La tenture était retombée. L'apparition avait disparu. Mais, profitant de ce moment distrait de Miss Alicia Clary, le grand électricien venait d'étendre la main vers le front de la belle détournée. Les paupières de celle-ci se refermèrent doucement, graduellement, sur ses yeux d'aurore. Ses bras, pétris en pierre de Paros, demeurèrent immobiles, l'un appuyé à la table, l'autre main tenant le bouquet de roses pâles, pendante sur un coussin. Statue de l'Olympienne Vénus, attifée au goût moderne, elle semblait figée en cette attitude, et la beauté de son visage était revêtue, en cet instant, d'un reflet surhumain. Miller Evald, qui avait vu le geste et l'effet du magnétique sommeil, prit la main, froide maintenant, d'Alicia. « Bien souvent, dit-il, je fus spectateur d'expériences pareilles. Celle-ci, toutefois, me paraît témoigner d'une bien rare énergie de fluide nerveux et d'une volonté. « Oh !» répondit Edison, « nous naissons tous doués à des degrés différents de cette faculté vibrante. J'ai développé la mienne avec patience, voilà tout. J'ajouterai qu'au moment précis où, demain, je penserai qu'il sera 2 heures, nul ne saurait empêcher cette femme, sans la mettre en danger de mort, de se rendre ici, sur cette estrade, et de s'y prêter de son mieux à l'expérience convenue. Dites un mot, cependant, il est encore temps, et notre beau projet de ce soir sera totalement oublié. Vous pouvez parler comme si nous étions seuls. Elle ne nous entend plus. Pendant le moment de silence qui suivit cette mise en demeure suprême, la blanche Andréide reparut, écartant les draperies brillantes et noires, et demeura, sous son voile de deuil, immobile et comme attentive, ses bras d'argent croisés sur son sein. Alors, le jeune et grave seigneur, indiquant la divine bourgeoise endormie, répondit « Mon cher Edison, vous avez ma parole, et je vous dirai que je manque absolument de frivolité dans mes engagements. Certes, nous ne savons que trop, l'un et l'autre, que ces êtres d'élection sont clairsemés en notre espèce, et qu'après tout, cette personne-ci, moins sa splendeur corporelle, correspond à des millions et à des millions d'autres de même nature, entre lesquels, et leurs fortunés possesseurs, l'intellectuelle inattention, pour plusieurs motifs, est à l'état réciproque. Aussi, suis-je si peu difficile en ce que l'on doit attendre, intellectuellement, d'une femme, même supérieure, que, si celle-ci était simplement douée de la plus minime éventualité de tendresse, même animale, pour quelque être que ce soit, fût-ce pour un enfant, j'estimerais sacrilège l'œuvre projetée entre nous. Mais vous venez de constater l'endémique, l'incurable, l'égoïste aridité qui, jointe à sa suffisance fastidieuse, anime cette forme surnaturelle, et il est devenu constant pour nous que son triste moi ne peut rien aimer, n'ayant pas, en sa trouble et rétive entité, de quoi ressentir le seul sentiment qui complète l'être vraiment humain. En vain, son cœur s'aigrit-il, peu à peu, sous le fade ennui que ses idées répandent autour d'elle, et qui ont l'exécrable propriété de revêtir d'un reflet de leur essence tout ce qu'elle approche, et jusqu'à sa beauté, à mes yeux. Même en lui arrachant la vie, on ne lui arracherait pas sa sourde, opaque, financière, restreignante et pitoyable médiocrité. Elle est ainsi faite, et je ne sache qu'un Dieu seul qui, sollicité par la foi, puisse modifier l'intime d'une créature. Or, pourquoi préférais-je me délivrer, fût-ce d'une façon fatale, de l'amour que son corps m'inspira? Pourquoi ne dois-je pas, enfin, me contenter, comme le ferait la presque totalité de mes semblables, de jouir uniquement de la beauté physique de cette créature, en ne tenant nul compte de ce qui l'anime? Parce que je ne puis atténuer en ma conscience, par aucun raisonnement, une très secrète certitude qui en est indivisible et dont la permanence travaille tout mon être d'un insupportable remords. Je ressens, en cœur, en corps et en esprit, qu'en tout acte d'amour, on ne choisit pas que la part de son désir et que l'on se brave soi-même par lâcheté sensuelle en se prétendant l'insoucieuse faculté d'exclure de cette forme avec laquelle on accepte quand même de mêler la sienne, l'intime essence qui, l'animant, peut seul produire cette forme et les désirs qui en émanent. On épouse le tout. Je dis que tout amoureux cherche inutilement à étouffer en lui cette arrière-pensée qui est absolue comme lui-même, savoir qu'il se pénètre, lui, d'une manière indélébile, de cette ombre possédée quand même, avec le corps, et qu'il espère illusoirement pouvoir exclure de la possession lorsque l'idée en gêne son plaisir. Et ne pouvons, vous dis-je, bannir en aucun instant de la vie quotidienne cette évidence intérieure qui m'obsède, savoir que mon moi, mon être occulte enfin, désormais est imbu de cette âme pâteuse, aux instincts sans lumière, qui ne saurait extraire la beauté d'aucune chose, alors que les choses ne sont ce qu'elles sont conçues et que nous ne sommes, en réalité, que ce que nous pouvons admirer en elle, c'est-à-dire y reconnaître de nous, je vous l'avoue, en toute sincérité, je crois avoir commis un acte d'abaissement presque indélébile en possédant cette femme. Et ne sachant plus comment me racheter de cet acte, je veux du moins en punir la faiblesse par une sorte de mort purificatrice. Bref, et quand toute la race humaine devrait en sourire, je prétends garder l'originalité de me prendre au sérieux, n'ayant d'ailleurs pour devise familiale, etiam si, omnes ego non. Je vous atteste donc une dernière fois, mon cher enchanteur, que, sans la soudaine, curieuse et fantastique proposition que vous m'avez faite, tenez, je n'eusse pas entendu sonner cette heure lointaine qu'emporte le vent de ce pâle matin. Non, j'étais dégoûté de l'heure, voyez-vous. Maintenant, comme j'ai le droit de regarder, le physique voile d'idéal de cette femme, ainsi qu'une dépouille gagnée en un combat dont, victorieux trop tard, je sors mortellement blessé, je me permets, pour résumer l'ensemble de cette soirée sans pareil, de disposer de ce voile en vous disant, puisque le pouvoir de votre prodigieuse intelligence vous le permet peut-être, je vous confie, pour le transfigurer en un mirage capable de me donner un change sublime, ce pâle fantôme humain. Et si, dans cette œuvre, vous délivrez pour moi la forme sacrée de ce corps, de la maladie de cette âme, je jure, à mon tour, d'essayer, au souffle d'une espérance qui m'est encore inconnue, de compléter cette ombre rédemptrice. « Bien, » dit Ellison pensif. « C'est juré, » ajouta, de sa voix mélodieuse et triste, Adali. Les draperies se refermèrent. Une étincelle brilla. Le lourd glissement de la dalle blanche, s'enfonçant, comme précipité, dans la terre, vibra quelques secondes, puis s'éteignit. Edison, en deux ou trois rapides mouvements de la main autour du front de la dormeuse, en dissipa l'insensibilité pendant que Lorévald remettait ses gants, comme si rien que de très simple ne se fût passé. Miss Alicia Clary s'éveilla, reprenant, au point où le suggéré sommeil l'avait interrompu, et sans nul autre souvenir, sa phrase commençait à Lorévald. Et puis, pourquoi ne me répondez-vous pas, s'il vous plaît, Milord comte Evald ? À son titre, insistement décliné, le jeune homme n'eut pas même aux lèvres ce pli amer que cause au seul gentilhomme vraiment noble ces sortes de certificats que donne sans cesse la triviale compagnie. « Excusez-moi, je suis un peu fatiguée, ma chère Alicia, » répondit-il. La croisée était restée ouverte sur la nuit éloignée que pâlissait déjà l'Orient. Une voiture, en s'approchant, faisait crier le sable des allées du parc. « Eh, mais on vient vous prendre, je crois, » dit Ellison. « Il se fait très tard, en effet, » dit Lorévald, en allumant un cigare. « Et vous devez avoir sommeil, Alicia. » « Oui, je voudrais reposer un peu, » dit-elle. « Voici l'adresse de votre chez-vous, où l'on va vous conduire, » dit l'électricien. « J'ai vu les appartements. Ils sont d'un confort très passable en voyage. À demain donc, et mille bons souhaits. » Quelques instants après, la voiture emportait les deux amants dans Menlo Park, vers leur cottage improvisé. Resté seul, Edison réfléchit un instant, puis, ayant refermé la fenêtre, « Quelle soirée » murmura-t-il. « Et ce mystique enfant, ce charmant seigneur, qui ne s'aperçoit pas que cette ressemblance avec la statue dont on reconnaît l'empreinte en la chair de cette femme, oui, que cette ressemblance n'est que maladive, que ce doit être le résultat de quelque envie en sa bizarre lignée, qu'elle est née avec cela comme d'autres naissent tigrés ou palmés, qu'en un mot, c'est un phénomène aussi anormal qu'une géante. Ressembler à la Vénus victrice, n'est, chez elle, qu'une sorte d'éléphantiasis dont elle mourra. Difformité pathologique dont sa pauvre nature est affligée. N'importe, il est mystérieux que cette monstruosité sublime soit arrivée juste au monde pour légitimer absolument ma première Andréide. Allons, l'expérience est belle, à l'œuvre, et que l'ombre soit. Sur ce, je crois avoir gagné aussi, ce soir, le droit de dormir quelques heures à mon tour. » Puis, s'avançant au milieu du laboratoire, « Sawada, » dit-il à demi-voix, avec une intonation particulière. À ce nom, la voix féminine, si pure et si grave qu'il avait entendue la veille aux premières heures du crépuscule, lui répondit, invisible, au milieu de la salle. « Me voici, mon cher Edison. Eh bien, qu'en dites-vous ? » « Le résultat m'a déconcerté moi-même pendant quelques instants, Sawada, » dit Edison. « Cela passe toute espérance, en vérité. C'est une magie. »« Oh, ce n'est rien encore, » dit la voix. « Après l'incarnation, ce sera surnaturel. »« Réveillez-vous et reposez-vous, » murmura Edison après un silence. Puis, il toucha le bouton d'un appareil. Les trois radieuses lampes s'éteignirent d'un coup. La veilleuse seule brûlait encore, éclairant auprès d'elle, sur le coussin de la table d'ébène, le mystérieux bras au poignet enlacé de la vipère d'or, dont les yeux bleus, semblait regarder fixement le grand électricien dans l'obscurité.